Au verset premier. Quand le Seigneur a appris que les pharisiens avaient dit qu'il faisait et baptisait plus de disciples que Jean, toutefois, Jésus ne baptisait pas lui-même, mais c'était ses disciples. Alors il quitta la Judée et repartit pour la Galilée. Or, il fallait qu'il traverse la Samarie. Il arriva donc dans une ville de Samarie nommée Sichar, près du champ que Jacob avait donné à Joseph, son fils. Là se trouvait le puits de Jacob. Jésus, fatigué du voyage, était assis au bord du puits. C'était environ la sixième heure. Une femme de Samarie vint puiser de l'eau. Jésus lui dit, « Donne-moi à boire. » Car ses disciples étaient allés à la ville pour acheter les vivres. Et la femme samaritaine lui dit, « Comment toi qui es juif me demandes-tu à boire à moi qui suis une samaritaine ?» Les juifs, en effet, n'ont pas de relation avec les samaritains. Et Jésus lui dit, « Si tu connaissais le don de Dieu et celui qui te dit, « Donne-moi à boire », c'est toi qui lui aurais demandé à boire et il t'aurait donné de l'eau vive. » Alors, ce verset qui commence par « Quand le Seigneur a pris ». « Quand le Seigneur a pris », et puis on a un peu comme une parenthèse, et puis au verset 3, « Alors il quitta la Judée ». Le Seigneur a pris quelque chose qui était faux, et la Bible nous le précise, c'est pas Jésus qui baptisait plus que Jean, c'était pas lui-même qui baptisait, mais c'était ses disciples qui baptisaient. Alors, Jésus quitta la Judée. Il y a un peu comme une fake news qui circulait. On dit des choses sur Jésus qui sont fausses. Et Jésus est là, pourtant, le Seigneur, le Sauveur du monde, le Fils de Dieu, le Créateur. Celui, on a lu ce matin dans l'Épître aux Hébreux, dans l'Épître aux Colossiens, celui qui était si près de Dieu, Dieu lui-même. Et alors, le Seigneur Jésus va changer ses programmes. Il a appris quelque chose qui ne lui convient pas, il va changer ses programmes. Alors, il quitta la Judée et repartit vers la Galilée. Alors c'est un changement de cap, changement de direction. On en fait souvent dans nos vies lorsque les choses ne nous conviennent pas. Et puis souvent, évidemment, on a raison. Il faut s'adapter. Il faut s'adapter. Il faut changer. Et le Seigneur Jésus a changé aussi de direction. Mais on peut se dire aussi, c'est peut-être un coup de tête. Il fallait à un moment faire autrement que ce que les autres disaient. Non, c'est le Seigneur. Et on va le voir. Prendre, se venger, c'est la même chose. Un bol d'air. Peut-être, on a besoin quelquefois de prendre un bol d'air, de se dire, on va changer un peu pour aller ailleurs, pour pouvoir voir d'autres personnes peut-être, parce qu'il y a trop de choses fausses ou de contre-vérités qui sont annoncées. Alors j'ai mis, là on ne le voit pas trop là-dessous, mais la réponse j'ai mis au verset 4. Alors au verset 4, « Or, il fallait qu'il traverse la Samarie ». Ce « il fallait », on le voit plusieurs fois dans la Bible ou quelque chose d'équivalent, c'est en fait les Écritures qui s'accomplissent souvent. Mais là, c'est la géographie. Il fallait. On a la Judée, on a la Samarie et on a la Galilée. Et il fallait traverser la Samarie, sinon il fallait faire un gros détour. Alors, ce il fallait, est-ce que c'est la réponse? Je ne sais pas. Mais il fallait que Jésus traverse la Samarie. Techniquement, géographiquement, oui, il fallait qu'il traverse la Samarie. Mais il y a plus que cela. Il arriva donc dans une ville de Samarie nommée Sichar, on l'a vu, près du champ que Jacob avait donné à Joseph, son fils. Le Seigneur a dû marcher dans ces contrées. Il pensait ce pays où il était, cette région où il était, où il annonçait l'Évangile, il faisait déjà des miracles. Et pourtant, il a été refusé. Pourtant, on a raconté des choses fausses sur lui. Et il va marcher longtemps, certainement. Je ne sais pas combien de kilomètres ça doit faire, mais 50, 60 kilomètres, je ne sais pas. Et il traverse ce pays de Samarie. Et en traversant ce pays, il doit penser à toute cette histoire, à ce Jacob qui était ce menteur, celui qui avait usurpé son frère, et pourtant, Jacob, la Bible nous en parle en bien, le Dieu de Jacob. Eh bien, il pensait à ce Jacob qui, lui, avait eu une bonne idée quand même, d'acheter un champ et de le donner à son fils Joseph. Et Joseph, ensuite, quand il va mourir, avant de mourir, il va dire que ses os soient emportés à cet endroit-là. Il voulait que c'était un peu le pays promis. Et alors, c'est donc un peu des promesses que le Seigneur Jésus, peut-être, pouvait voir dans cet endroit-là. Mais il était fatigué. C'était la sixième heure, midi. La traduction française courante nous dirait « c'était midi ». c'était midi. Midi dans cette Palestine, dans ces pays si chauds, suivant la saison de l'année, je ne sais pas, il se trouvait là, il y avait un puits. Et encore, c'était le puits de Jacob. Jacob qui avait creusé des puits, qui avait apporté du bien autour de lui. Jacob, ce Jacob, on en parlait encore. Et le Seigneur Jésus s'est tendrement pensé à lui. Il était fatigué du voyage et il s'assoit au bord du puits. Un puits, c'est profond. Et puis, dans ce désert ou dans ces régions sèches, c'est profond. Et il s'assoit et il attend. C'était midi et le soleil continue à taper. On voit dans la parole de Dieu Jésus qui est fatigué, Jésus qui est lassé du chemin, Jésus qui pleure au tombeau de Lazare, Jésus qui est troublé. On n'oserait pas le dire, nous, Jésus troublé. Notre Seigneur, celui qui a tout accompli, qui est venu pour la croix, pourtant il est troublé. Il est troublé, c'est écrit en Jean 12, verset 27. Jésus est attristé, Matthieu 26. Il est fort angoissé. Et on sait que sa sueur, elle est devenue comme des grumeaux de sang. Des grumeaux de sang. Fort angoissé. Il est à l'étroit. Vous savez, quand on a quelque chose qui nous serre, qu'on peut plus arriver à digérer et on est complètement à l'étroit. À l'étroit au-dedans de lui-même. C'était une souffrance terrible qui était devant lui. Et puis l'Épître aux Hébreux nous parle de ces grands cris, des grands cris, des larmes, des choses qu'on ne voit pas dans la parole de Dieu. Mais c'est l'Esprit qui l'a donné à cet auteur de l'Épître aux Hébreux. Des prières, des supplications à celui qui pouvait le sauver de la mort. Et on sait que le Seigneur Jésus est passé dans la mort, mais il en a été sauvé. Il a été ressuscité. On a chanté cette victoire ce matin. Mais en attendant, il y a eu toutes ces étapes. Jésus fatigué dans la barque. Samuel nous en a parlé il y a quelques semaines. Jésus fatigué, Jésus qui s'endort dans la barque. Voilà, c'est notre Seigneur. L'Épître aux Hébreux nous parle de celui qui a été, devait-il devenir en tout semblable à ses frères, il nous appelle ses frères, afin d'être un souverain sacrificateur. C'est un terme compliqué, souverain sacrificateur, c'est un peu comme un grand pasteur, un grand prêtre. Celui qui pouvait rentrer dans la proximité de Dieu, miséricordieux, fidèle dans le service de Dieu, pour faire l'expiation des péchés au peuple, pour pardonner les péchés. De ce fait, il a souffert lui-même. Quand il fut éprouvé, il peut secourir ceux qui sont éprouvés. Le Seigneur Jésus a connu les pleurs, les troubles, la souffrance, ces compressions, ces moments où il était si mal pour nous. Alors maintenant, il peut, lui, nous comprendre. Et l'histoire continue. Il y a quelqu'un qui arrive. Le hasard avec un grand D comme Dieu. Des choses qui sont permises. Des situations dans lesquelles on se dit « Quelle chance j'ai eue !» La chance, c'était Dieu qui le permettait. C'était Jésus qui était là et toutes choses étaient tracées. Une femme de Samarie vient puiser de l'eau et Jésus va lui dire, assise sur ce bord de puits, devant une femme qui est là, « Donne-moi à boire. » Car ses disciples étaient partis, on l'a déjà lu. Ils étaient partis pour acheter des vivres. Et je ne sais pas si à l'époque, il y avait des canettes d'eau. Et ils devaient des bouteilles, mais ils étaient partis pour acheter. Et Jésus est seul avec cette femme. Cette femme est une samaritaine. Et alors, elle va penser à toutes ces disputes qu'il y a dans cette région du monde avec Samaritains, les Juifs, non, on ne peut pas s'entendre, non, on ne peut pas aider quelqu'un, on ne peut même pas lui poser une question. Et en plus, une femme samaritaine, non, le Juif n'aurait pas posé une question, cette question à une samaritaine. Et alors, elle va lui dire, trop étonnée, quoi, « Toi qui es Juif, tu me demandes à boire, à moi qui suis une samaritaine. » Les Juifs n'ont pas de relation avec les Samaritains. On peut se dire quelquefois, on a un peu quelquefois ces petits ou ces gros conflits dans la famille. C'est un peu une famille, là, quand même, le Moyen-Orient, c'est tout petit. Hein. Et on a quelquefois ces conflits dans la famille. Et alors, on peut se dire, non, mais lui, il a trop fait, maintenant, c'est bon. À lui, je ne peux même pas lui demander quelque chose, même pas à boire. Pourtant, j'ai chaud, j'ai soif, j'ai faim. Non, je ne lui demanderai pas, parce que c'est mon frère qui, lui, a fait des choses que je ne veux pas qu'il fasse. Parce que, voilà. Eh bien, le Seigneur Jésus va passer outre toute cette tradition, toutes ces choses anciennes, tous ces non-dits, toutes ces choses qu'il y avait des conflits entre ces pays voisins, ces régions voisines. Et Jésus va lui dire une belle phrase qu'on peut entourer dans nos Bibles, se souvenir, se rappeler. Donc, l'évangile de Jean, de Luc, chapitre 4, verset 10, facile à se rappeler. Si tu connaissais le don de Dieu, si tu connaissais le don de Dieu, c'est Jésus qui parle. Et il va dire à cette femme, si tu connaissais le cadeau de Dieu, le don de Dieu, et que celui qui te dit, donne-moi à boire, c'est toi qui lui aurais demandé à boire, et il t'aurait donné de l'eau vive. Alors là, certainement, elle ne devait plus rien comprendre. Il avait besoin d'elle, et c'est lui qui va lui dire ça, si tu connaissais le don de Dieu. Mais celui qui le dit, c'est notre Seigneur. Et il le dit avec des paroles d'amour, des paroles de grâce. Et on voit que cette vie, cette eau vive coule de lui. Ça se voit. Alors, elle va lui dire, mais Seigneur, lui dit-elle, Seigneur, c'était un terme qui n'était pas forcément, ça ne voulait pas dire forcément son Seigneur. Hein. C'était une personne qu'elle avait du respect. Tu n'as rien pour puiser, le puits est profond. D'où aurais-tu cette eau vive? Es-tu plus grand? Et là, elle va sortir les références qui sont communes finalement à toute cette région. « Es-tu plus grand que notre père Jacob qui a donné ce puits et qui en a bu lui-même, ainsi que ses fils et ses troupeaux ?» Et Jésus va lui répondre, « Quiconque boit de cette eau aura encore soif. Mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura plus jamais soif. Et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau qui jaillira jusqu'à dans la vie éternelle. » Une eau qui est dans le puits, une eau qu'il faut revenir et revenir et revenir, il faut puiser. Et puis, l'eau donnée par Jésus, l'eau vive, l'eau qui coule à flot, cette eau qui coule jusque dans l'éternité, c'est l'eau de la grâce, c'est l'eau du salut, c'est l'eau du pardon. C'est ce sang qui a coulé sur la croix, c'est un Jésus sauveur, un Jésus miséricordieux, un Dieu rempli d'amour, un Dieu rempli de paix, de joie pour nous. J'ai repris un petit tableau que je vous avais montré à un moment, la comparaison entre la fontaine de Jésus et le puits de Jacob. On va relire le texte qui est écrit en haut, on vient de le lire. La fontaine, c'est la fontaine de Jésus. L'origine, c'est Jésus. C'est, on a dit, cette eau vive. Le puits de Jacob, c'est ce puits qui a été creusé, ce puits qui était important pour cette région, ce puits qui était une preuve d'amour de celui qu'on vénère encore, entre guillemets, Jacob, le Dieu de Jacob. Tout le monde en parle là-bas, dans le Moyen-Orient, le Dieu de Jacob. Pour cette femme, c'est plus qu'un grand-père encore, c'est beaucoup plus loin, mais c'est quelqu'un de mémorable. On s'en rappelle, le puits de Jacob. Comment obtenir de l'eau? Eh bien, l'eau de Jésus, cette fontaine, c'est de l'eau qui coule, de l'eau qui jaillit, de l'eau qui est en abondance. Le puits de Jacob, c'est une eau qui est profonde, une eau qu'on ne peut pas atteindre comme cela. Il faut la puiser, il faut être équipé. Et Jésus, qui est à côté du puits, ne pouvait pas la prendre. Il fallait que quelqu'un vienne avec une corde et le petit seau. La durée d'action de cette fontaine de Jésus, de cette eau vive, eh bien, elle est éternelle. Une fontaine d'eau jaillissant en vie éternelle. Il n'y a pas de fin. Ça a commencé parce qu'on s'est donné au Seigneur Jésus et ça va jusque dans l'éternité. Et l'éternité, c'est sans fin. Bien entendu, le puits, il faut le renouveler. Le prix, c'est quelque chose de gratuit. C'est le don de Dieu. Le puits de Jacob, c'est le cadeau de Dieu. Si tu connaissais le don de Dieu et celui, et Jésus, celui qui te dit « donne-moi à boire », tu lui aurais demandé. Alors, demandons à Jésus ce cadeau gratuit, cette eau vive. Seigneur, montre le chemin. Tu es le chemin, la vérité et la vie. Le puits de Jacob, c'est un puits où il faut faire un effort, on l'a vu. C'est la période de cette fontaine d'eau, c'est déjà pour le présent, c'est pour aujourd'hui déjà, cette eau qui jaillit et qui va jusque dans l'éternité. Et puis le puits de Jacob, c'est un peu le passé quand même. Ce puits est là, il existe encore des puits de Jacob dans cette région du monde, mais dans ces puits, eh bien, il y a de moins en moins d'eau. On est dans une période de réchauffement climatique, il y a de moins en moins d'eau. C'est un peu le passé, c'était le puits de Jacob. Lui-même, Jacob, il en avait bu, et puis ses enfants en ont bu, ses troupeaux en ont bu. Ce puits a pu servir, mais il fallait renouveler. Et Jésus, c'est le présent, c'est aujourd'hui, celui qui est, qui était, le passé et celui qui vient. Non, ça n'avance plus. Alors, qui choisir? La fontaine d'eau vive ou le puits de Jacob? Que choisir? Les choses qui passent, les choses qui ne durent pas, ou alors cette eau vive, Jésus? Est-ce qu'on choisit la foi en Jésus-Christ, sauveur du monde, ou est-ce qu'on choisit la foi de nos parents, celle du Dieu de Jacob? Le Dieu de Jacob, est-ce qu'il est mon Dieu? Est-ce qu'il est mon Père? Voilà, il faut choisir. On peut continuer, c'est encore un petit schéma que je vous ai mis une fois, là. Ce cheminement. On pourrait dire que la vie chrétienne, c'est la conversion. Et puis j'ai mis aussi que c'était aussi la vie d'une église. La vie d'une église, il peut y avoir des périodes de réveil, un peu comme une conversion. Des moments où on sent que l'Esprit de Dieu est là, qu'il y a cette joie de se retrouver, la joie de louer, qu'il y a Dieu qui agit, simplement. La conversion, c'est un peu la même chose. C'est Dieu qui transforme un cœur qui ne comprend pas, un cœur qui se donne, un cœur qui accepte, tout simplement, que Jésus est son sauveur. Et puis, il peut y avoir, au cours de la vie, des périodes où on ne va pas puiser à la fontaine, des moments où cette fontaine, même on a l'impression qu'elle ne coule plus, pourtant elle est toujours la même, et on va au puits. C'est peut-être des années dans la vie de matérialisme. On peut avoir des hauts et des bas dans la vie chrétienne, malheureusement. Et dans la vie d'église, on peut avoir aussi de la routine. Des moments où on avance parce qu'il y a un peu comme une tradition, des choses qui sont, qui étaient, et qui devraient rester. Mais en attendant, on s'appuie sur ces bases. La base, c'est Jésus-Christ, le rocher des siècles. Et puis, heureusement, l'Esprit de Dieu agit. Et puis, il peut y avoir des moments où on retourne à la source. Et alors, on se rend compte qu'elle coule et qu'elle ne s'est jamais arrêtée de couler. C'est une écluse, en fait, une écluse de Dieu qui s'est ouverte et qui remplit les cœurs. Alors, je ne suis pas en train de retracer la vie de l'Église locale dans laquelle nous sommes. C'est la vie de toutes les églises. C'est la vie des chrétiens aussi. Même dans une journée, on peut passer par ces étapes. Le matin, on se réveille, on remercie Dieu pour ce jour de plus. On lit un petit verset quelquefois, si on est pressé de la Bible. Et on est heureux, le cœur reconnaissant. On loue le Seigneur et on part tranquille au travail ou aux activités. Et puis, dans la journée, il peut y avoir des moments où on est un peu dégoûté, les choses ne vont plus. Des choses peut-être plus difficiles que d'autres, peut-être des petits détails de la vie où on tourne trop d'importance. Et là, on ne regarde plus à la fontaine d'eau vive, on regarde au puits qui se dessèche. Et puis après, d'autres moments où on va retourner à la source. Ça peut être pareil dans une période de vie d'une église, on l'a vu. Alors, cette femme, elle va dire, « Seigneur, donne-moi cette eau. » C'est la prière qu'on peut faire. Seigneur, simplement. Chacun peut le faire pour soi. Seigneur, donne-moi de cette eau, afin que je n'ai plus soif et que je ne vienne plus puiser ici. Ça ne veut pas dire qu'il ne faudra plus manger ou plus boire, mais c'est quelque chose de spirituel. C'est Dieu qui nous donne cette eau dans nos cœurs, pour que nos cœurs soient rassasiés. Qu'on n'ait plus besoin de chercher d'autres choses dans le monde, qu'on n'ait plus besoin de chercher des choses qui ne vont jamais nous satisfaire, de nous attacher boulet après boulet avec des péchés. Non, c'est Dieu qui nous donne cette eau vive, afin que nous ayons plus soif. Alors, le Seigneur Jésus va lui faire un petit coup, on va dire, et va lui dire, va, appelle ton mari et reviens ici. Et la femme va répondre, je n'ai pas de mari. Jésus lui dit, tu as bien fait de dire, je n'ai pas de mari, car tu en as eu 5. Et celui que tu as maintenant n'est pas ton mari, et en cela, tu dis vrai. Alors là, elle est complètement, elle ne comprend plus rien. Seigneur, lui dit la femme, je vois que tu es prophète. Jésus travaille dans les cœurs. Jésus révèle dans les cœurs ce qu'on connaît, ce qu'on sait. Mais Jésus nous le révèle. Lorsqu'on lui demande cette eau vive, il se révèle. Il se révèle comme celui qui est ce grand prophète. Le prophète de Dieu, l'envoyé de Dieu, Jésus, le Fils de Dieu. Et alors, il va révéler les choses, il va dire les choses. Il sait ce qu'il y a au fond de nos cœurs et il va nous le dire. Alors la femme, là, elle passe encore au cran supérieur et elle va se dire, mais cette montagne, elle a toute une histoire. Nos pères ont adoré sur cette montagne. Notre père Jacob, nos pères ont adoré. Et vous vous dites que l'endroit où il faut adorer est à Jérusalem. Femme, lui dit Jésus, crois-moi, l'heure vient. L'heure vient où ce ne sera ni sur cette montagne, ni à Jérusalem que vous adorerez Dieu. Ce n'est ni sur la montagne des Samaritains, ce n'est ni à Jérusalem, la grande ville des Juifs. Non, ce n'est plus là, ce n'est plus là-bas non plus, le lieu pour adorer le Père. Vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Nous adorons ce que nous connaissons, car le salut vient des Juifs. Mais l'heure vient, et c'est maintenant, dit Jésus, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité, car ce sont de tels adorateurs que le Père recherche. C'est des choses qui sont difficiles à comprendre lorsque on est marqué par une tradition. Il y avait à Jérusalem le temple. Il y avait sur cette montagne un peu, c'est pas un mausolée, mais il restait encore des traces de ce que Jacob avait pu faire lorsqu'il était venu se souvenir de Dieu à cet endroit-là. Eh bien, voilà, c'est étonnant, c'est pas ça, dit Jésus. Ce n'est pas votre tradition, ce n'est pas vos règles. Et pendant cette période de confinement ou de Covid, eh bien, on se rend compte que les choses sont complètement changées. On est resté longtemps dans nos maisons et nos frères et sœurs sont encore dans leurs maisons aujourd'hui. Mais Dieu est là. On peut l'adorer et on doit l'adorer là où on est, dans nos maisons. C'est seulement ce rassemblement de chrétiens. Ce n'est pas aujourd'hui, le Seigneur n'est pas là aujourd'hui, présent dans ce lieu simplement. Il est aussi avec nos frères et sœurs qui sont là avec nous. Il est aussi avec tous les chrétiens de cette ville et du monde entier. Et le Seigneur Jésus, ce qu'il veut, c'est des adorateurs qu'il adore en esprit et en vérité. Alors souvent j'avais cru que la vérité c'était un ensemble de règles. Et puis un jour Dieu m'a montré que la vérité pour moi c'est la vérité dans le cœur. C'est des cœurs vrais, des cœurs purs pour Dieu. Le Père en cherche de tels qu'il adore, en esprit et en vérité. Dieu est esprit, il faut que ceux qui l'adorent l'adorent en esprit et en vérité. Cette parole, c'est une parole du Seigneur, de notre Seigneur. C'est une parole qui est forte, une parole qu'on répète souvent. Et on aurait pu dire en commençant, comme beaucoup disent, c'est des versets qu'on connaît par cœur. Non, on ne les connaît pas par cœur, c'est des versets qu'on lit souvent. Eh bien, c'est des versets qui sont forts. Les vrais adorateurs, c'est maintenant. Et le Père en cherche de tel qu'il adore. Alors Seigneur, donne-moi d'être ce vrai adorateur, en esprit, par ton esprit, Seigneur, et en vérité. Alors, le lieu, c'est ni sur cette montagne, ni en Jérusalem, mais en esprit, en vérité. C'est plus un lieu, c'est plus une tradition, c'est en esprit et en vérité. Voilà. C'est clair, c'est simple. C'est la parole du Seigneur qui le dit. Et la femme va continuer. Alors, c'est amusant, mais elle était en recherche quand même. Et le Seigneur Jésus le savait. Je sais que le Messie vient, et celui qu'on appelle Christ. Christ, ça signifie envoyé de Dieu. C'était le Messie qui était attendu, celui qui était envoyé de Dieu pour venir envoyé de Dieu pour Israël, pour ce pays qui était aimé, envoyé de Dieu. Quand il sera venu, il nous annoncera tout. Et le Seigneur qui est là présent va dire, il ne gêne pas ton petit bonhomme, hein, il n'y a pas de tout. Jésus lui dit, je suis moi qui te parle. C'était Jésus, l'envoyé de Dieu. Il a été envoyé de Dieu pour son peuple, envoyé de Dieu pour cette femme samaritaine, envoyé de Dieu pour nous. Je le suis, moi qui te parle, dit Jésus. Et il nous parle encore aujourd'hui par sa parole, par son esprit aussi. Alors, les disciples vont revenir, ils étaient partis en ville, ils étaient partis, je ne sais pas s'ils étaient partis à Intermarché ou Lidl, mais ils étaient partis au petit commerce du coin, et ils reviennent avec de la nourriture certainement, et ils sont étonnés de voir que Jésus, celui qui ne croyait pas qu'il allait parler à une femme tout seul, quand même, pourquoi on le prend? Et personne ne va quand même oser lui demander. Que demandes-tu? Ou de quoi parles-tu avec elle? Personne ne va oser lui demander. Ils ont quand même du respect, mais par derrière, ils devaient certainement un peu jaser. La femme laissa donc sa cruche, et elle s'en alla dans la ville. Mais l'histoire n'est pas finie. Elle va partir, elle laisse sa cruche, elle s'en va, elle revient sans eau certainement, et elle va dire à ceux qui sont dans la ville, venez, venez, c'est l'appel du salut, l'appel de la grâce. Elle a connu quelque chose, elle a entendu parler de cette eau vive, venez voir un homme qui m'a tout dit ce que j'ai fait. Ne serait-ce pas le Christ? Ne serait-ce pas l'envoyé de Dieu? Et alors, ils sortirent de la ville, on ne sait pas combien, ils sortirent de la ville et vers Jésus. On a ici une femme qui avait eu une vie particulière, on va dire, avec cinq maris. Mais il y a tant de vies particulières. Mais Jésus est là pour nous pardonner. Il annonce, il se présente comme celui qui est le chemin, la vérité, la vie. Le chemin pour aller vers Dieu, le chemin du pardon, le chemin du salut. Ce sang qui coule, c'est le sang qui a coulé une fois pour toutes, pour le salut, notre salut. Alors cette femme, elle va être libérée. Elle va connaître la vraie franchise, puisqu'elle-même va aller oser parler de son passé. Jésus connaît tout ce qu'elle a fait, mais elle va lui dire au Seigneur. Elle va témoigner, celui-ci n'est-il point le Christ? Et puis, il va y avoir des fruits, des premiers fruits. Plusieurs crurent à cause de la parole de cette femme. Une femme de mauvaise vie, autrefois, c'est son passé. Une étiquette que les hommes laissent, mais une étiquette que Dieu enlève. Elle a un nouveau nom dans les cieux. C'est une nouvelle personne, une nouvelle créature. Il m'a dit tout ce que j'ai fait. Voilà, alors on avait mis ce titre, arrêtons-nous au puits de Jacob. Mais si on s'arrête au puits de Jacob, c'est pour comprendre où en est la source. Cette source, ce n'est pas le puits, c'est Jésus. Notre cœur est sans repos tant qu'il ne repose pas en toi, c'est saint Augustin qui l'avait dit. Notre cœur est sans repos tant qu'il ne repose pas en toi Jésus. Et c'est vrai que la recherche... On voit où peut mener la recherche de Dieu. Elle peut mener à n'importe quoi, à n'importe quelle façon de penser, à des comportements qui sont évidemment mauvais et qui mènent à la perdition, mais déjà au temps présent. Et le Seigneur Jésus, lui, va dire, venez à moi, vous tous ici dans cette salle, vous tous dans vos maisons, vous qui êtes à l'hôpital, Francis à l'hôpital, seul, avec cette période de confinement. Venez à moi, vous tous qui vous fatiguez, qui êtes chargés. La fatigue, ça peut être le péché, ça peut être le mal, ça peut être aussi la souffrance intérieure, ça peut être aussi la souffrance physique. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Le repos de Dieu, le repos du Seigneur. Et vous trouverez le repos de vos âmes. Le repos de l'âme, c'est finalement bien moins de souffrance. Même si le corps peut se dégrader, eh bien, Dieu nous dit que nous avons un corps nouveau, vivant pour l'éternité. Jésus, la source des eaux vives, de l'eau vive. Et quand on a vu au début qu'il fallait qu'il traverse la Samarie, il fallait pour la géographie, mais avec Jésus, c'est il fallait. Il fallait pour que cette femme de mauvaise vie devienne une sœur, en Christ, une nouvelle sœur. Il fallait que Jésus passe pour qu'elle puisse elle-même l'annoncer et que d'autres puissent l'annoncer et d'autres puissent venir voir Jésus et le rencontrer certainement. Il fallait. Il fallait que Jésus traverse la Samarie pour qu'elle puisse comprendre qu'elle avait un libérateur, un sauveur, Jésus. Voilà, c'est un texte qu'on lit souvent. Un texte qui nous parle, un texte qui me parle à chaque fois que je le relis, un texte qui nous parle de cette tradition et qui nous parle de la spiritualité, d'un esprit qui est là, vivant, un esprit qui est en nous, un esprit qui habite en nous, qui agit, l'esprit de Dieu, l'esprit qui nous est donné à la conversion, l'esprit qui est là pour nous enseigner, pour nous conduire à Christ, pour nous parler de justice, de vérité, de jugement aussi. Voilà. Tout ce texte nous parle de l'amour d'un Dieu qui s'est fait homme, Jésus, fils de Dieu. Celui qui est venu, qui a pleuré, qui a tremblé, qui a eu faim, qui a eu soif. Mais celui qui a délivré, qui a pardonné. Un pardon présent, un pardon éternel. Seigneur, il fallait que tu souffres. Seigneur, il fallait que tu traverses ces pays. Seigneur, il fallait que tu entres dans la vie de nos parents, de notre conjoint ou de personne qui m'a parlé de toi. Seigneur, il fallait. Ce n'est pas un hasard, c'est tout ce que nous vivons, c'était une nécessité. Et alors, Seigneur, le chemin est là devant nous. Seigneur, donne-nous de prendre ce chemin, donne-nous de le vivre pour toi, donne-nous de marcher avec toi. Seigneur, nous n'aurons plus faim, nous n'aurons plus soif. Tu es là pour nous combler, pour nous donner cette joie présente, éternelle, cette vie en abondance. Seigneur, tu es notre libérateur. Seigneur, nous t'adorons. Béni sois-tu. Amen.